Donc nous souhaitons tout d'abord rappeler que cette interview il est réalisée dans le cadre du projet de la clinique juridique en partenariat avec la Cour administrative d'appel. Et nous souhaitions remercier l'ensemble des personnes qui participent à ce projet. Avant de commencer les questions, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ?
Alors, je m'appelle François Bourachaud, je suis né en 1960. Je suis marié, je suis père de 4 enfants qui sont grands maintenant. Je suis juriste, j'ai un DEA de droit de l'environnement que j'ai obtenu sous la direction du professeur Untermeyer à l'université Lyon 3. Voilà, j'ai passé le concours de l'IRA à l'âge de 20 ans et j'ai choisi alors le ministère de l'équipement, les services extérieurs comme administration d'affectation. Voilà, donc j'ai travaillé une dizaine d'années à l'équipement et puis 10 ans plus tard, j'ai passé le concours de préparation à l'ENA, le concours interne. J'ai fait une année de préparation à l'ENA à l'IEP de Paris. Et durant cette année, j'ai réussi le concours de conseiller de tribunal administratif. Donc on m'a mis en demeure de choisir entre le bénéfice du concours et la candidature à l'ENA. Et donc comme c'est ce que j'aurais choisi comme métier, comme corps d'affectation, c'est dans l'hypothèse où j'aurais réussi l'ENA et suivi la scolarité, j'ai accepté le bénéfice du concours. Voilà. Donc, j'ai commencé ma carrière après en 1991. Je suis entré dans ce bâtiment, au tribunal administratif de Lyon. Je suis devenu président en 2004 à la Cour administrative d'appel de Marseille, président assesseur. Et puis ensuite, je suis revenu à Lyon. Je suis retourné au tribunal administratif comme président de chambre en 2009. J'y suis resté 3 ans. Je suis devenu président de chambre à la Cour administrative d'appel en 2013. Et puis, depuis le 1er novembre 2019, j'en suis le premier vice-président. Mais je préside également une chambre, la cinquième chambre, qui est la chambre qui traite du contentieux de l'urbanisme pour les tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand et de Dijon, et puis du contentieux de l'aménagement commercial, avec une particularité, c'est que la chambre est juge de première instance, bien que nous soyons à la Cour administrative d'appel. Nous traitons également de la fiscalité pour en appel du tribunal administratif de Lyon. Et puis, comme toutes les autres chambres de la Cour, nous traitons du contentieux des étrangers, puisque selon les périodes d'activité, ce contentieux peut dépasser la moitié des affaires enregistrées en appel à la Cour. Voilà. Parallèlement à ces fonctions de magistrat administratif, j'ai enseigné comme vacataire à l'Université Lyon 3, comme maître de conférence associé à l'Université Lyon 2 et puis comme professeur associé à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne. J'ai également réalisé quelques travaux d'écriture, outre des articles, des conclusions que j'ai publiées. Je suis le co-auteur d'un ouvrage sur le régime juridique des marchés publics avec mes collègues et amis Daniel Chalanol et Jean-Pierre Joublet. Et puis, je suis également co-auteur d'une 9e édition du Code de justice administrative commenté avec Daniel Chebanol. Et depuis la 10e édition, je suis auteur tout seul de ce Code de justice administrative commenté.
Un parcours bien complet. En quoi consiste aujourd'hui votre métier de président de chambre ?
Alors, être président de chambre dans une cour administrative d'appel, c'est d'abord animer une équipe qui comprend des magistrats, un président assesseur, de premiers conseillers assesseurs, qui sont assesseurs et rapporteurs à tour de rôle, un rapporteur public, mais c'est aussi une équipe qui comprend des agents de greffe. Voilà, avec une difficulté un peu particulière, c'est que par rapport à une administration classique, évidemment, les collègues magistrats ne sont pas des collaborateurs, comme on l'entend parfois dire, ou des subordonnés, mais bien des collègues. Et puis les agents du greffe aussi sont sous l'autorité hiérarchique du greffier en chef, mais doivent travailler avec le président de chambre. Il faut veiller à ce que tout le monde travaille en bonne intelligence, dans le respect des délais qui nous sont impartis par le code de justice administrative, mais aussi par les usages en vigueur dans la juridiction, avec des objectifs qu'on s'est nous-mêmes définis, ou que nous a définis le Conseil d'État. Donc on doit traiter les urgences, évidemment, celles qui sont prévues par le code, de manière un peu procédurale, mais aussi par matière. Par exemple, en matière d'urbanisme, on a des délais de jugement contraints, mais on a aussi pour objectif de ne pas avoir de dossier de plus de 2 ans. Donc un président, c'est aussi celui qui veille au respect de ses objectifs de jugement. Alors pour tout le monde, le rythme est assez soutenu. La Cour tient au minimum 20 audiences, la Chambre tient au minimum 20 audiences par an, auxquelles peuvent s'ajouter des audiences de référé, notamment, ou de sursis-exécution, des jugements. Et donc ça fait un rythme d'une audience ou d'une séance d'instruction par semaine. Donc, audience tous les 15 jours, audience ou séance d'instruction la semaine où il n'y a pas audience. Les arrêts étaient ensuite rendus 3 semaines après l'audience. Donc, ils sont rendus publics par mise à disposition au greffe et il faut que tout le monde ait signé la minute du jugement à cette date-là, ce qui est assez contraignant, mais bon, pour se faire le président de chambre, il a le concours d'un greffier qui vient aussi surveiller ce rythme et la bonne marche des délais. Après, être président de chambre, c'est aussi participer à la vie de la juridiction dans des instances internes. Tous les 15 jours, le président de la Cour tient ce qu'on appelle une troïka, qui est constituée du président, des présidents de chambre, et également du greffier en chef et des deux greffiers en chef adjoints. Donc cette troïka, elle a deux fonctions, une fonction d'organisation de la vie de la Cour, de consultation à la demande du président, et puis également une fonction de cohérence juridictionnelle, puisque c'est en troïka que sont validés les arrêts qui sont non seulement la position de la Chambre qui les a jugés, mais aussi la position de la Cour. Présider une Chambre, c'est avec le greffier en chef lire toutes les requêtes qui arrivent dans la Chambre. Elles arrivent dans la Chambre après une répartition entre les chambres par le président de la Cour et la greffière en chef. C'est orienter les requêtes aussi entre celles qui vont suivre une procédure de droit commun à être jugées en formation collégiale, puis celles qui ont vocation à être jugées par voie d'ordonnance, étant précisé que rien n'est irrémédiable. Une requête qui avait vocation à être jugée en collégial peut très bien être en définitive jugée par voie d'ordonnance, notamment en cas de désistement, de non-lieu ou d'irrecevabilité qui serait révélée par l'instruction de l'affaire, ou même comme étant manifestement infondée lorsque, entre l'enregistrement de la requête et l'ordonnance, une jurisprudence a réglé la question que pose le dossier. Et à l'inverse, ce qui au départ a vocation à être jugé par voie d'ordonnance peut très bien s'avérer être beaucoup moins simple qu'il n'y paraissait à la première lecture. Et dans ce cas-là, on met la requête à l'instruction, on la communique à un défendeur et elle repart dans le circuit collégial pour être jugé en formation collégiale. Donc à ce moment-là, on lance également les premières mesures d'instruction, l'identification du bon défendeur, c'est parfois assez redoutable, l'identification de la nature du contentieux, ça peut être parfois également assez difficile. Et puis, donc, communication de la requête au défendeur. Donc, un travail d'instruction qui a d'abord lieu avec le greffier de chambre et le président, puis ensuite on désigne un rapporteur, et le rapporteur va continuer l'instruction de l'affaire, mais toujours sous l'autorité du président. Alors, une troisième dimension des fonctions de président de chambre, c'est ce qu'on appelle les tâches de révision. Présider une chambre, c'est être aussi réviseur du travail juridictionnel qui est fait par les rapporteurs. Donc le président encadre les mesures d'instruction, relit les dossiers qu'il a déjà lus une première fois quand ils sont arrivés, mais évidemment le dossier a évolué ensuite, et puis donc il va prendre connaissance de l'étude du dossier qui est fait par un rapporteur avant le jugement de l'affaire, qui est formalisé sous la forme d'une note et d'un projet d'arrêt. Alors il fait tout ça pour qu'un débat collégial ait lieu dans une instance qu'on appelle la séance d'instruction et qui est pendant laquelle la chambre prend position sur chaque dossier, sauf dans des hypothèses où on admet qu'il y ait une transmission directe au rapporteur public pour des dossiers qui ne méritent pas un débat en séance d'instruction. Mais cette transmission directe est assez peu fréquente, parce qu'une fois que un dossier a passé le filtrage du tri entre collégial ordonnance, du filtrage entre communication de la requête ou pas communication de la requête, puisqu'on a aussi la possibilité de ne pas communiquer la requête, il y a assez peu d'espace pour des hypothèses où le dossier serait transmis directement au rapporteur public sans passage en séance d'instruction. Et donc le point final de la séance d'instruction, chacun prend la parole, on échange, on pose des questions, on regarde éventuellement s'il faut compléter l'instruction, et ensuite on adopte une position de chambre sur chaque dossier. Alors c'est aussi intéressant de faire ça en séance d'instruction, parce que dans une chambre, on a de quoi faire deux formations de jugement au minimum, hein, puisque finalement on va juger à trois, donc le président de chambre, un président assesseur et un rapporteur. Il y a un deuxième rapporteur dans la chambre, donc on est susceptible d'avoir deux formations de jugement au sein de la même audience au minimum. Et la séance d'instruction permet aussi de recueillir la position, l'avis du magistrat qui ne va pas siéger sur une affaire nécessairement en audience. Donc c'est un moyen aussi d'avoir une cohérence de la jurisprudence à l'intérieur de la chambre. C'est que personne ne peut dire « moi j'étais pas là, j'ai pas jugé ça, je me sens pas concerné par ce qui a été jugé ». Précédemment. Et ça permet de rechercher une position commune sur des dossiers. Voilà. Présider une chambre, c'est aussi assurer la police de l'audience. Hein. Donc, on surveille le bon déroulement de l'audience avec l'audition du greffier, du rapporteur public, des parties. Et puis ensuite, on organise le débat collégial au délibéré, en faisant prendre parti sur la solution, le raisonnement, la rédaction. Moi, j'aime bien distinguer ces trois phases du délibéré, étant précisé qu'on délibère également sur les projets d'arrêt. On met au point la rédaction en délibéré, ce qui fait que le projet devient à ce moment-là un arrêt. Voilà, il y a un travail de rédaction aussi, on juge à juge unique tout ce qui est jugé par voie d'ordonnance, et puis les procédures de référé sont en général jugées par le président de chambre, mais pas uniquement. Le président de la cour peut désigner d'autres magistrats pour exercer des fonctions de juge du référé. Voilà. En principe, je devrais vous dire également qu'être président de chambre, c'est aussi connaître l'administration pour mieux la juger. C'est un des poncifs du contentieux administratif et une idée qui date du 19e siècle. Henriot pensait. Mais en fait, ce n'est pas une règle générale. Alors, je ne veux pas parler de mon parcours, mais les deux meilleurs présidents de chambre que j'ai connus dans ma carrière étaient, avant de devenir magistrat, agrégé de philosophie pour l'un et agrégé de lettres pour l'autre. Donc, ne correspondait pas vraiment au profil de l'administrateur actif et donc ne correspondait pas du tout à l'idée préconçue du juge administratif. Et puis, j'ajouterais que l'un n'a pas fait de mobilité dans l'administration active. Et l'autre a fait une mobilité au Conseil de la concurrence, donc c'est pas vraiment une administration classique. J'insiste aussi enfin sur le fait que dans toutes ces tâches, le président de chambre il est assisté par un président assesseur qui a un rôle important. C'est une fonction qui n'existe pas en tribunal administratif, mais qui existe en cour. Et puis évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure. Par un greffier de chambre, étant précisé que le président assesseur il a vocation également à présider des formations de jugement. Donc il n'y a pas une stricte coïncidence entre présider une chambre et présider des formations de jugement.
Pour vous, quels sont les avantages de votre activité professionnelle ?
Alors c'est une activité qui permet de concilier l'indépendance d'esprit, l'autonomie dans le travail et le travail collectif au sein d'une communauté juridictionnelle, j'insiste, une juridiction, ça n'est pas uniquement des magistrats, il y a le greffe, et puis il y a aussi des services support, la documentation, la communication, le service intérieur, et en fait, on trouve des occasions et des sujets pour travailler en commun à côté du travail juridictionnel. Alors le travail de président de chambre, comme le travail d'un magistrat administratif, c'est un travail intellectuel qui demande de la lecture, de l'étude, même si la culture du copier-coller et la dématérialisation, et puis le nombre de dossiers à traiter, conduisent un peu à mécaniser le travail. Voilà. Il est assez exceptionnel de terminer une journée sans rien avoir appris de nouveau dans son activité, parce que pour traiter les dossiers qui sont très variés, l'administration s'occupe de tout en France, et puis le juge administratif s'occupe de tout également, et donc à travers l'activité juridictionnelle, il est amené à découvrir beaucoup d'activités, de secteurs économiques, de problématiques sociétales ou économiques et sociales. Voilà, et puis un des intérêts de ce travail, c'est qu'enfermer 3 personnes ou 5 personnes ou encore plus, puisque vous savez qu'on peut juger pratiquement en formation plénière à condition d'être en nombre impair dans une salle pendant une après-midi avec une vingtaine de dossiers et puis rendre une décision collégiale sur chaque dossier. Et une fois que c'est décidé, on n'y revient plus. C'est plutôt assez rare dans le monde administratif, où sévit un peu la réunionnique et l'enchaînement de réunions qui parfois ont pour seul objet de préparer la prochaine réunion. J'ai quand même connu ça dans mon passé d'administrateur actif.
Votre profession est-elle comme vous l'aviez imaginé ?
Non, et en fait, je n'avais pas imaginé exercer cette profession.
C'était pas une vocation ?
C'était pas une vocation au départ. Je dis souvent par provocation que je suis devenu magistrat parce que je n'ai pas pu être prof de gym mais prof d'histoire. Voilà, donc et ça correspond aussi un peu à un parcours quand j'étais en âge de m'inscrire à l'UFR STAP, c'était la grande époque des reçus collés, donc je n'ai pas voulu prendre le risque. Je suis ensuite allé voir les IPES qui étaient un mécanisme qui permettait de financer vos études pour devenir professeur. J'avais plutôt envie d'être prof d'histoire. Et finalement, je me suis inscrit en droit. Et après, après avoir travaillé dans l'administration, en fait, j'ai plutôt eu envie de... Dans l'administration, j'ai fait bien d'autres choses que du droit, de l'informatique, des études statistiques. Et puis après, j'ai eu envie de revenir à ma formation initiale et à mes premières amours juridiques.
Est-ce que si on vous donnait aujourd'hui l'opportunité de changer, vous le feriez ?
Non, je changerai pas. Non, non. Et mon passage dans l'administration active qui m'a beaucoup appris dans une administration intéressante hein, qui était l'administration de l'équipement. J'ai un peu vu le déclin de l'État, hein. Enfin, l'État central en tout cas, pas le déclin des personnes publiques dans cette administration. Les amis qui sont, et collègues qui sont restés dans cette administration sont passés de découpage en découpage, de regroupement de services en regroupement de services pour aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui, la direction départementale des territoires, mais qui fusionne ce qui était autrefois plusieurs administrations. J'ai vu aussi le dessaisissement de compétences au profit des collectivités territoriales. En 82, la décentralisation. 83, la loi urbanisme, la décentralisation des compétences en urbanisme. 84, la loi aménagement. Après, des petits ressauts de retour de l'État central avec la loi montagne et la loi littorale. Mais grosso modo, je regrette pas non plus d'être parti de cette administration pour ça, alors que c'était une administration formidable à la fois pour ses compétences et pour son personnel, mais une administration qui a subi un certain déclin. Et non, je ne regrette pas d'avoir quitté l'administration dite active, je ne regrette pas d'être rentré dans les tribunaux administratifs. Quoique la carrière d'avocat m'aurait également intéressé.
Très bien. Et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui dans l'exercice de ce métier ? Est-ce qu'il vous passionne ou du moins est-ce qu'il vous satisfait ?
Bah, rendre la justice, même administrative, c'est un métier passionnant, même si ce n'est pas celle qu'on voit dans les téléfilms et dans les films. Mais on dit le droit hein, sur tous les dossiers. Pour trancher un litige, c'est une activité qui est quand même essentiellement technique, mais parfois ça coïncide avec la représentation de ce qu'on a, de ce qui est juste. Hein. Ce que dit Tom Hanks dans Philadelphia, hein, il joue le rôle d'un avocat, il le dit sur le métier d'avocat, c'est très juste, et en grande partie transposable au métier de magistrat. C'est un travail technique, hein, il faut de la technique juridique, et parfois on a une coïncidence entre technique et justice. Et puis parfois on passe à côté de ce qu'il aurait fallu faire. Ça m'est arrivé quelquefois dans ma carrière. Soit qu'on passe à côté et puis le Conseil d'État est là pour nous rappeler qu'on est passé à côté, soit que le Conseil d'État lui-même soit passé à côté et finalement on regrette de ne pas avoir contribué à une évolution jurisprudentielle qui aurait pu intervenir plus tôt, même de ne pas avoir su provoquer une réflexion de la part du Conseil d'État. Mais pour autant, bon, il faut s'en servir pour ensuite être plus vigilant pour l'activité future.
Et pour vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier, les plus grandes qualités principales ?
Il faut du savoir, il faut savoir lire, écrire, compter. Pas seulement, mais moi j'ai vu dans ma carrière des collègues qui n'avaient pas de formation de juriste et qui avaient passé le concours de l'École nationale d'administration, qui sont devenus des juristes hors pair et des magistrats exceptionnels. Hein. Donc il faut surtout savoir raisonner, puis avoir le sens de l'application du droit à une situation concrète. Parfois, il faut se poser la question de savoir, voilà, j'ai eu un raisonnement juridique, mais appliqué à telle situation, ça n'a pas grand sens. Donc il faut refaire le travail en l'envers et rechercher si un autre raisonnement est possible. Il y a une grande partie du travail qui se fait tout seul, hein, qui ressemble à du travail de moine copiste. Alors, quand on avance dans la carrière, les bureaux sont un peu plus grands, mais quand on débute, ça ressemble bien à une cellule de moine où on est tout seul. Mais pour ceux qui ont la chance d'avoir des bureaux tout seuls, hein, puisque ce n'est pas le droit commun dans la justice administrative, hein, dans la juridiction administrative, c'est en tout cas le droit commun à Lyon. Mais donc il y a une part de travail qui se fait tout seul, mais il faut aimer aussi le travail collégial. Dans un délibéré, un homme, une femme égale une voix, quel que soit le grade. Donc les arguments d'autorité, en principe, n'ont pas leur place. Il faut convaincre les collègues quand on veut emporter le morceau, pour parler trivialement, et puis accepter d'être mis en minorité, quel que soit son grade, et même si on est président de chambre, lorsqu'on n'a pas su convaincre les collègues. C'est-à-dire qu'il faut aussi une certaine dose d'humilité, parce que quand on a été mis en minorité, tout en étant président, ce sont parfois les collègues, même souvent les collègues, qui ont raison et qui nous ont évité de faire une erreur. Je terminerai en disant qu'il faut aussi savoir désobéir. Être un magistrat, c'est savoir désobéir. Je sais qu'on ne vous le dira pas, mais je le pense réellement. Alors, qu'est-ce que j'entends par désobéir ? Désobéir, c'est pas se comporter comme un justicier, mais c'est surtout faire ce que le raisonnement conduit à faire, et ne pas faire ce qu'on attendrait de vous, ou ce qu'on croit qu'on attend de vous, y compris au Conseil d'État, une évolution jurisprudentielle n'est jamais jouée d'avance. Donc évidemment, il faut pas faire ce que voter comme on vous dit de voter, pour la seule raison que c'est entre guillemets un supérieur hiérarchique qui vous le dit, mais il faut aussi se défier de l'attitude qui consiste à dire, mais dans cette situation, on a de bonnes chances d'être annulé, et le Conseil d'État ne nous suivra pas, et donc il faut se garder de cette posture et savoir prendre un risque juridictionnel, même si c'est évidemment, il ne faut pas que le risque soit inconsidéré, et puis il ne faut pas non plus entrer dans une posture de rébellion systématique contre le juge de cassation.
Quelles sont vos relations avec les autres professionnels du droit, notamment les greffiers, les avocats ?
Alors, avec les greffiers, la relation est quotidienne. Puisqu'en permanence, pour l'enregistrement des requêtes, pour l'aiguillage des requêtes, pour l'instruction des affaires, pour l'organisation de l'audience, on a affaire au greffier. Le greffier, c'est aussi celui qui va relire les arrêts, vérifier la procédure au cas où on aurait oublié un mémoire, une note en délibéré. Évidemment, ça n'arrive jamais. Mais il faut quand même faire ce travail de vérification. Parfois, d'ailleurs, le greffier nous dit, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, donc on peut aussi lui expliquer, et puis parfois, il ne comprend pas parce que c'est incompréhensible. Et donc, ça peut nous conduire à modifier une rédaction. Voilà donc comment un président de chambre opère avec les greffiers, puis avec les autres professionnels du droit. Mais en fait, quand on est président de chambre, le président de la cour nous confie des fonctions de représentation à l'extérieur avec d'autres professionnels du droit. Donc on a l'occasion, alors c'est pas très, très fréquent, mais d'échanger avec d'autres professionnels du droit. Par exemple, les notaires, voilà. Alors, le plus souvent, c'est plutôt avec les avocats, mais il ne faut pas oublier aussi les experts, qui ne sont pas des professionnels du droit en tant que tels, mais qui sont quand même des auxiliaires de justice ponctuels. Ils exercent une autre profession, ils s'inscrivent sur une liste, et on a des échanges avec eux. Les manifestations officielles, en fait, sont aussi des lieux d'échange avec d'autres professionnels du droit. Et puis, on a des fonctions de représentation de la Cour au sein d'autres institutions. Par exemple, je suis membre du conseil d'administration de l'EDARA, donc au moins une fois par trimestre, parfois plus, lorsque les circonstances l'exigent. Je siège au conseil d'administration de l'EDARA, ce qui me permet d'avoir une bonne vision de cette profession, de l'évolution de cette profession à travers la scolarité, mais aussi des échanges avec d'autres membres du conseil d'administration. La Cour organise également régulièrement des matinales de droit public ou des vespérales de droit fiscal qui permettent d'échanger avec les avocats. Et puis, pour ce qui concerne les vespérales de droit fiscal, on a même des échanges avec l'administration fiscale, ce qui n'est pas si fréquent. Donc, ces vespérales de droit fiscal sont tripartites, cour, administration fiscale et barreaux, hein, puisque au sein des barreaux, vous avez des commissions spécialisées en fonction des matières, donc, notamment une commission pour le droit public, mais également une commission pour le contentieux fiscal. Et puis, comme président de chambre, eh bien, on participe l'élaboration, pardon, des documents qui sont publiés sur le site d'AIEBA, donc cette association, qui est un partenariat entre l'université, les universités et les barreaux, et puis également les juridictions du ressort, puisque collabore à IODA les membres des tribunaux administratifs du ressort. Et cette association et ce site est en partie alimenté par nos travaux, pas uniquement, mais on fait l'effort de repérage des affaires qui nous paraissent intéressantes, qui sont souvent celles qui sont passées en Troïka, et pour lesquelles la Cour a validé une position, mais pas uniquement. Et dans ce cadre-là, bien, le président de chambre rédige un petit résumé de l'affaire qu'on appelle un abstrait, en mettant en évidence les précédents jurisprudentiels et les textes qui ont été mobilisés pour parvenir à ce résultat.
Et quelles sont vos relations avec les justiciables et avec les étudiants ?
Alors, en dehors des justiciables institutionnels, nous avons peu de relations avec les justiciables, en dehors de la procédure écrite et puis du temps de l'audience. Et même pendant l'audience, on appelle normalement le ministère d'avocat est obligatoire. Donc on a peu de relations directes, enfin, sauf exception, mais elles ne sont pas nombreuses. Et puis, là où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, je pense par exemple aux compétences de première instance de la Cour administrative d'appel, notamment l'aménagement commercial, finalement, les parties prennent des avocats, même si ça n'est pas obligatoire. Donc on a toujours une relation avec le justiciable qui est une relation médiatisée. Alors on peut tenter des relations avec les justiciables, ceux qui sont organisés en association. Il n'y a pas très longtemps, pour le colloque de la Compagnie des experts à la Cour administrative de Lyon, la Compagnie avait fait cet effort d'inviter le représentant d'une association, mais il n'est pas venu. Je me souviens aussi d'une tentative aussi dans le cadre de l'anniversaire d'AIEBA, mais ce colloque anniversaire où étaient conviés les justiciables qui n'étaient pas les justiciables professionnels à tourner court en raison d'un événement tragique. Donc au total, on a assez peu d'occasions de rencontrer les justiciables, si ce n'est à travers un environnement familial ou amical, hein, qui peut avoir affaire avec l'administration ou avec le juge administratif. Avec les étudiants, eh bien, on a des échanges assez, assez suivis, puisqu'on a une politique d'accueil systématique des étudiants de master. Alors autrefois, des trois universités de Lyon et de Saint-Étienne. Alors cette année, ça a un peu changé, donc on va voir comment ça va se dérouler. On accueille également d'autres étudiants en stage de découverte de la juridiction en format court. On accueille aussi même des élèves de troisième, hein, qui sont principalement pris en charge par notre greffière en chef et des agents des greffes et puis des services support. Voilà, et puis on accueille exceptionnellement des étudiants pour des stages de 2 mois et plus, hein, mais c'est assez exceptionnel. C'est la mesure où nos capacités d'accueil et puis nos ressources financières nous le permettent. Actuellement, on a deux étudiantes en stage long à la cour, mais c'est assez exceptionnel. Pourquoi ? Bien parce que déjà, on accueille en stage long les élèves avocats pour une durée de 6 mois. Alors, c'est pas toujours un élève avocat par chambre, mais ça peut être le cas certaines années. En principe, on essaye d'avoir un stagiaire de 6 mois par chambre et par année judiciaire.
Et quelles sont les évolutions de carrière possibles dans votre branche professionnelle ?
Alors, un président de chambre dans une cour administrative d'appel, il peut devenir premier président d'un tribunal administratif. Il peut également présider une petite juridiction par mutation. Il peut également devenir en promotion premier président d'une cour, ça a été mon cas, président d'une grosse juridiction également par promotion. Et puis un président de chambre peut intégrer le Conseil d'État et devenir conseiller d'État par la voie d'un tour extérieur spécifique. Voilà. Et puis, c'est pas le cas de président de chambre, mais dans le passé, dans le passé récent, il y a des collègues qui sont plutôt des présidents de juridiction qui deviennent des présidents de cours administratifs d'appel, et donc à cette occasion, ils deviennent conseillers d'État. Ça a été le cas du président Gilles Hermite.
Et est-ce que vous avez des conseils pour des étudiants qui souhaiteraient suivre la même voie que vous ?
Je dirais que depuis Jean de La Fontaine, rien n'a vraiment changé. Hein. Donc on pourrait reprendre la fable du laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Je pense que c'est toujours vrai. Mais je dirais d'abord, il faut évidemment travailler, il faut évidemment faire des études adéquates, mais dans la juridiction, on a quand même une variété des profils d'origine des magistrats qui est assez importante. D'abord, vous savez qu'on a plusieurs voies de recrutement, hein, l'Institut national du service public, on a un concours qu'on appelait autrefois direct, on a également le tour extérieur et puis on a également l'intégration par voie de détachement, c'est-à-dire qu'on est d'abord détaché comme magistrat administratif et puis ensuite on peut se faire intégrer. Et en fonction de ces différentes possibilités de recrutement, on a des profils très très différents. Donc j'ai tendance à dire rien n'est fermé. C'est pas parce qu'on n'est pas le juriste d'exception spécialiste d'une spécialité qu'on va nécessairement devenir conseiller de tribunal administratif. Donc il faut d'abord faire ce qu'on souhaite faire et puis ensuite seulement se poser la question d'intégrer la juridiction administrative. Et puis aussi, il faut d'abord bien faire un stage en juridiction ou bien devenir assistant de justice ou maintenant, avec un nouveau statut a été créé, statut entre guillemets, statut de juriste assistant. Donc il y a plusieurs manières de découvrir le travail juridictionnel et puis ça permet aussi de vérifier que c'est un travail qui vous correspond. J'ai vu des gens très très doués à qui ça ne convenait pas. Ils sont venus comme assistant de justice ou étant fonctionnaire, ils sont venus également comme assistant du contentieux et le travail juridictionnel ne leur convenait pas. Cette manière de travailler tout seul de A à Z, hein, puisqu'en fait, à la différence quand j'étais dans l'administration active, j'étais chef d'un bureau, j'avais de l'argent à gérer, des compétences strictement définies à gérer, du personnel à gérer. Voilà, il y avait un certain nombre de tâches que je sous-traitais. Dans la juridiction administrative, ce n'est pas du tout le cas. On ne gère pas d'argent, on n'a pas de gros budget, on ne gère pas de personnel, en tout cas quand on est magistrat. On fait à peu près tout soi-même, et ça peut ne pas correspondre à des profils de juristes qui sont plus faits pour l'administration active. Et puis je vous dirais aussi que il y a un facteur hasard donc, qu'il ne faut pas négliger. Parfois le très bon n'y arrive pas. C'est un peu comme dans Match Point. Hein. La balle, elle ne retombe pas nécessairement du bon côté du filet. Et voilà. Je ne sais pas jusqu'à vous dire que parfois de très vilains ou pas bons arrivent à passer de l'autre côté du filet. Mais, en tout cas, moi j'ai eu des exemples de gens qui avaient toutes les qualités et qui n'ont pas réussi. Donc j'ai envie de vous dire que c'est pas grave. Si on a fait ce qu'on avait envie de faire comme étude et comme travail, et il y a d'autres manières de le faire que de devenir magistrat administratif. Voilà. Il y a le métier d'avocat notamment, hein, qui n'est pas du tout déshonorant. Je connais un camarade d'université qui avait réussi l'ENM et le CRFP1, c'est comme ça qu'on appelait les écoles d'avocats à l'époque. Il a choisi l'école des avocats et il n'est pas malheureux. Il n'est pas passé à côté de sa vie professionnelle.
Ben, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et du temps accordé à cette interview.
Je vous en prie.